Alors, nous allons passer à la dernière intervention de la matinée. Et c'est Frédéric Neff qui va nous rejoindre pour intervenir. Frédéric Neff est sans doute connu de la plupart d'entre vous. Il a une grande influence sur le paysage français, de la métaphysique contemporaine, à la fois comme passeur, parce qu'il a formé un grand nombre de métaphysiciens de la nouvelle génération, et également comme contributeur. Alors, enfin, comme passeur, un livre célèbre est « Qu'est-ce que la métaphysique ?», qui est publié chez Gallimard. Et puis, évidemment, comme contributeur original, il a publié notamment jusqu'en 2017 une trilogie où il défend sa propre métaphysique. D'abord l'objet quelconque, ensuite les propriétés des choses. Et en 2017, c'était l'Antium qui est paru donc l'an dernier. Et aujourd'hui, il va nous parler du principe de non-contradiction, du principe de bivalence, et de savoir quel est l'usage et quelle est la fonction que peuvent avoir ces principes en métaphysique.
Pour ceux qui seraient vivement intéressés par le principe de bivalence, il vaut mieux que je les déçoive tout de suite. La difficulté de réfléchir sur le principe de contradiction m'a empêché d'arriver au principe de bivalence. Cela dit, j'y ferai quelques allusions quand je parlerai de Meinung, notamment à propos des objets non existants et à propos aussi de Leibniz. Je ferai quelques allusions. Mais mon exposé portera donc sur le principe de contradiction. Autre remarque. On dit que le principe de contradiction est quelque chose qui suscite le découragement et l'obscurité. C'est généralement ce que disent les commentateurs. Je n'y ai pas échappé. C'est-à-dire que finalement, je suis capable de vous dire un certain nombre de choses sur la manière dont certains auteurs ont parlé du principe de contradiction, où sont les problèmes. Mais finalement, fin de compte, je suis, disons, perplexe sur énormément de points. Donc je tiens à vous le dire. Ce n'est pas du tout que j'ai une lecture aporétique de ce qu'on pourrait appeler l'ontologie aristotélicienne, comme Aubin. Pas du tout. C'est pas du tout ma position. Je pense qu'il y a chez Aristote une ontologie, une métaphysique. Bon, mais en ce qui concerne le principe de contradiction, il est vrai que je trouve qu'il y a une difficulté véritablement très importante. Cette difficulté, on va le voir, vient de quelque chose d'assez simple. C'est que Aristote dit c'est finalement le principe qui est le plus ferme de tous, le plus solide. Et en même temps, il dit qu'il est parfaitement indémontrable. On peut finalement le justifier, mais par réfutation. Et si on le justifie par réfutation, on risque de tomber dans la pétition de principe. Donc, finalement, il y a une difficulté véritablement, je ne sais pas comment l'appeler, principielle de ce principe de contradiction. Alors, je voudrais, avant de plonger dans l'exposé, vous rappeler que c'est dans le livre Gamma de la métaphysique que le principe de contradiction est, disons, exposé et défendu. Finalement, même s'il y a une certaine difficulté à le définir, à le démontrer, il y a une utilité, il y a une fonction du principe de contradiction, et le livre Gamma s'y attache. Or, c'est en rapport avec ce qu'a dit Claudine. Or, le début du livre Gamma, en fait, est un des passages les plus clairs sur la nature de la philosophie première ou de la métaphysique, enfin, comme vous pouvez choisir le terme que vous voulez. En effet, je ne vais pas beaucoup donner de citations très longues, mais celle-ci, elle sera un peu longue, mais elle est très importante. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être et les propriétés qui appartiennent à cet être par soi. Cette science n'est identique à aucune de celles qu'on appelle partielles. C'est la traduction de Jolin et Duminil, qu'on appelle partielles. Car aucune des autres n'examine en totalité l'être en tant qu'être, mais elles en découpent une partie et étudie à son sujet le coïncident par soi. J'aime pas tellement le coïncident par soi comme traduction. Ça veut dire l'accident par soi. Hein. Comme font les sciences mathématiques. Or, puisque nous cherchons les principes, vous voyez, on est plein dans le sujet, c'est-à-dire les causes les plus hautes, à l'évidence, il est nécessaire qu'ils relèvent de ce qui est nature par soi. Si donc ceux qui cherchaient les éléments des êtres, eux aussi, cherchaient ces principes, il est nécessaire aussi que les éléments soient éléments de l'être, non par coïncidence, kata sumebekos, c'est ça la coïncidence, hein, mais en tant qu'ils sont des êtres. C'est pourquoi il nous faut, nous aussi, saisir les premières causes de l'être en tant qu'être. On voit comment on passe hein, des principes aux éléments et des éléments aux causes, à propos de l'être. Hein. C'est un texte, un des textes, je trouve, les plus clairs sur disons, la question de la définition. Alors, c'est dans ce contexte hein, que va se, disons, se réaliser l'enquête, l'analyse sur le principe de contradiction. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça finit comment ? Puisque c'est la question qu'on se pose toujours. On voit comment ça commence, mais comment ça finit. Eh bien, ça finit de manière très intéressante par une démonstration, en même temps, de ce que c'est que le changement. Et Aristote dit qu'effectivement, on ne peut pas dire que les choses soient complètement en mouvement, on ne peut pas dire qu'elles soient complètement en repos, principe de contradiction. Mais cette fin, c'est pratiquement la fin de Physique 8. Hein, sur la nature du changement, sur le premier moteur, etc. Donc ça veut bien dire que le contexte, en fait, hein, du principe de contradiction est un contexte véritablement métaphysique. Hein. Et ça va évidemment nous interpeller, puisque la question que je me pose, c'est est-ce que le principe de contradiction est un principe logique, c'est-à-dire un principe qui servirait dans les démonstrations, dans les éventuellement syllogistiques, ou bien est-ce que c'est un principe métaphysique, c'est-à-dire qu'il nous dit finalement quelque chose sur la réalité, éventuellement que la réalité est contradictoire, pourquoi pas, hein, puisque le principe de contradiction a ce concept de contradiction, disons évidemment, qui est présent. Voilà. Alors, je voudrais, avant de me plonger dans les difficultés de la définition hein, du principe de contradiction, rappeler une chose, c'est que dans la littérature sur le principe de contradiction, on distingue toujours des lectures du principe de contradiction. On ne prend pas le principe de contradiction, disons, bille en tête et comme une chose, disons, parfaitement unique, comme par exemple le principe d'identité. On n'a pas défini 4 ou 5 sortes de principes d'identité. Tandis que pour le principe de contradiction, si vous regardez la littérature, on distingue donc un principe sémantique en termes de possibilité, de vérité ou de fausseté. Alors, je vous lis, par exemple, De Morgan, le logicien du XIXe siècle. « Contradictories or propositions, one of which must be true and the other false. » Donc là, il prend des « pairs of propositions » et les contradictoires, c'est qu'il y en a une qui est vraie, l'autre qui est fausse. Là, on a quelque chose qui est sémantique puisque ça concerne la vérité. Le prior, « contradictory negation » on contradiction is a relation between statements that are exact opposites. They can be neither true nor false together. Parfaitement clair et c'est parfaitement sémantique. Hein, c'est la notion de vérité. À côté de cette lecture sémantique, il y a une lecture syntaxique qui est où le principe de contradiction est défini en termes de forme. Par exemple, Susan Hack dit une contradiction de la forme « a » et « non a ». Ou Kalisch et Montagu, dans leur traité de logique, hein, ultra classique, « a contradiction consists in a pair of sentences, one of which is a negation of the other ». Là, c'est parfaitement, évidemment, syntaxique au sens où c'est des formes, disons, de négation, simplement. Mais il y a une lecture pragmatique. La lecture pragmatique, c'est quand on fait intervenir l'assertion et la dénégation. Alors Aristote, il arrive à Aristote de donner une définition pragmatique. Par exemple, every affirmation. Oui, je cite, c'est un peu curieux de citer. J'allais citer Aristote en anglais. Non, mais il y a une partie de mon texte. Alors, toute affirmation a une négation ou une dénégation opposée, et de manière similaire, toute dénégation, une affirmation opposée. Nous appellerons une telle paire de propositions une paire de contradictoires. Donc, c'est très proche de ce qu'on a vu avant sur les paires. Hein, mais il y a quelque chose qui est nouveau et qui est pragmatique, c'est cette idée de dénégation. Hein. Et c'est curieux, mais Quine, finalement, peut être mis là. Quine dit « to deny on statement or to affirm another statement known as a negation or contradiction of the first ». Bon. Donc, lecture pragmatique. Et il y a également une lecture, disons, ontologique, qui évidemment va nous intéresser dans l'exposé que je vais faire, où la définition est en termes d'état de choses. Là aussi, Aristote a précédé ceux qui ont apporté cette définition, puisqu'il dit « the same attribute », oh, décidément, le même attribut ne peut pas être au même moment, ne peut pas au même moment appartenir et ne pas appartenir au même sujet, et sous le même aspect ou sous le même point de vue. Bon. Et il y a un auteur qui s'appelle Routlet, ou Sylvan, puisqu'il avait deux noms, qui dit « a contradictory situation is one where both be and non-be hold for some be ». Alors, la définition en termes ontologiques est une définition, qui est souvent en termes d'état de choses. J'y reviendrai, parce qu'on va voir qu'un auteur très important pour le principe de contradiction, un des plus importants, qui s'appelle Lukashevitz, lui a raisonné en termes d'objet et pas en termes d'état de choses. Donc il faudra, à un certain moment de mon exposé, si j'y arrive, expliquer la différence entre objet et état de choses, hein, pour l'ontologie. Alors, vous voyez que finalement, vous avez trois lectures, sémantique, syntaxique, pragmatique, mais qui sont des lectures logiques, en fait. Hein, c'est trois. Bon, et vous avez une lecture ontologique. C'est bien, si vous voulez, ce que je veux faire, c'est-à-dire me demander si c'est, logique ou ontologique. Mais à propos de ce qui est logique, évidemment, il faut distinguer un petit peu. Et cette distinction que j'ai apportée, vous la connaissez, c'est la distinction de Charles Morris, dans Encyclopedia of Unified Science, qui était dirigé par Carnap. Il y a un petit opuscule où il distingue justement sémantique, syntaxique et pragmatique. Bon. Alors, maintenant, rentrons un peu plus dans le vif, peut-être du sujet. Le principe de contradiction a été, analysé et étudié par un logicien et philosophe polonais dont vous devez connaître le nom, qui s'appelle Lukashevitz. Lukashevitz est connu parce qu'il a introduit peut-être un des premiers, j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il y en a eu d'autres, mais enfin un des premiers, ça c'est sûr, la logique polyvalente ou multivalente. Et c'est très intéressant parce que il a écrit le texte sur Aristote avant. Et le texte d'Aristote n'est pas quelque chose qui nous invite à la multivalence. Hein, pas, bon. Mais donc, il y a quand même un rapport qui existe dans son œuvre entre, disons, le travail sur le principe de contradiction et le reste de son œuvre. Et Lukashevitz, distingue, lui aussi, plusieurs lectures du principe de contradiction. Il distingue une lecture logique et une lecture ontologique, donc ça renvoie à ce qu'on vient de dire, sauf que nous avons un petit peu serré la logique, et il distingue aussi une lecture psychologique. Lecture psychologique qui est très proche de la lecture pragmatique, mais dont je ne dirai pas finalement grand-chose. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, Brad, j'en dirai rien, c'est que Lukashevitz pense que le principe de contradiction est également un principe éthique. Mais ça, je ne dirai rien. Évidemment que c'est un principe éthique, parce que si vous prenez chaque fois la contradiction comme portant sur des éléments, la contradiction peut porter effectivement sur des comportements ou sur des vertus, etc. Et on peut définir une relation probablement de contradiction dans ce domaine. Mais je laisse ça de côté, même si c'est assez intéressant de se demander si le principe de contradiction, disons, fonctionne dans ce domaine. En tous les cas, Loujkiewicz distingue logique, ontologique et psychologique. Ça, c'est... Et en fait, ce qu'il défendra, c'est que finalement, c'est la même chose, la lecture logique et la lecture ontologique. C'est-à-dire que dans ce que je vais faire, on va avoir cette position de Loujkiewicz, on va avoir la position de certains contemporains qui disent non, pas du tout, il y a une fondation quand même, il y a une fondation du logique sur l'ontologique, il y a des auteurs qui le soutiennent, et il y a des arguments pour ça. Et il y a une troisième position, dont vous pensez que, même en m'ayant écouté peu de temps, dont vous pensez que je serai assez critique avec elle, c'est, il y a une position qui consiste à dire, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas d'ontologie chez Aristote, pas du tout. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Et donc, ça n'a aucun sens de se demander ça. D'où ça vient ? De Heidegger. Hein ? Heidegger, dans un de ses livres, a dit ça. A dit, il ne faut pas penser qu'il y ait quelque chose comme la logique et l'ontologie chez Aristote, et donc il n'y a pas de délimitation. Et donc, s'il n'y a pas de délimitation, évidemment, le principe... Alors, ne croyez pas que quand je dis ça, j'exagère, dans la mesure où il y a un livre qui s'appelle « La décision du sens », qui porte sur métaphysique gamma, qui est paru il y a une vingtaine d'années, je dirais, et où Barbara Cassin reprend cette manière de voir. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Ça n'a aucun sens de se demander si c'est logique ou ontologique. Et c'est très intéressant parce que, en fait, le texte de Barbara Cassin est un texte dans lequel elle critique et elle s'en prend à Loujkiewicz avec un maximum de, disons, de virulence. Donc vous voyez un petit peu comment les choses se disposent. On pourrait dire, si vous voulez, Loujkiewicz contre Heidegger. Hein, d'accord ? Alors, dernière chose, le livre de Loujkiewicz a été écrit en 1912. Donc c'est un texte qui précède même les textes beaucoup de textes de Heidegger. Alors... Loujkiewicz, dans son travail, commence en fait par l'ontologie. Et il commence par une ontologie, finalement, de l'objet. De l'objet, n'oubliez pas, 1912, on est immédiatement après les élaborations sur la théorie de l'objet et l'ontologie de l'objet de Meinong. Et Loujkiewicz est très marqué par ça. Je suis désolé de faire de l'histoire, c'est pas bien, quand on est un peu analytique, il faut être modéré avec ça. Mais là, quand même, si vous voulez, Loujkiewicz est un Polonais. Dans ce cas-là, Meinong, qui lui-même est un Autrichien, eux faisant partie plus... directement ou indirectement de l'Empire, il y a un lien très fort entre, disons, la philosophie meinongienne et cette philosophie polonaise. Donc, je dis ça parce que sinon vous pourriez être étonné que, disons, Loujkiewicz, finalement, reprenne les choses de Meinong. Alors, il dit « J'entends par objet tout ce qui est quelque chose et qui n'est pas rien. Et par propriété, tout ce qu'on peut affirmer d'un objet. » Alors, je ne veux pas faire d'érudition, mais quand il dit par objet tout ce qui est quelque chose et qui n'est pas rien, bien sûr, il est dans l'optique de Meinong, puisque c'est une ontologie de l'objet. Mais ça diffère de Meinong, parce que Meinong admet des objets qui n'existent pas. Tandis que là, il dit quelque chose et qui n'est pas rien. Hein, apparemment, il n'admet pas l'objet non existant. Alors, la définition que ça va donner du principe de non-contradiction, c'est qu'aucun objet ne peut à la fois posséder et ne pas posséder une même propriété. Donc, et ça, c'est ce qu'il appelle la version ontologique du principe de non-contradiction. Aucun objet ne peut à la fois posséder et ne pas posséder une même propriété. Le principe ontologique s'applique pour Lukashevitz à l'être, to-on. Et le principe logique qu'il distingue considère deux jugements contradictoires qui ne peuvent être vrais à la fois. Et il donne une autre formulation, deux jugements dont l'un attribue à l'objet justement cette propriété que l'autre lui refuse ne peuvent être vrais à la fois. Donc voilà les deux versions fondamentales, version donc ontologique et version logique du principe de contradiction. Pour Lukashevitz, les principes ontologiques et logiques sont des jugements équivalents. Pourquoi ? Parce que, pour lui, le principe logique découle du principe ontologique, je vais en dire deux mots, et le principe ontologique découle du principe logique. Donc, si A découle de B, si B découle de A, A et B sont équivalents. Le principe logique découle du principe ontologique. Je cite, Lukashevitz, je cite Aristote. Si le jugement déclarant que quelque chose est blanc ou est non blanc est vrai, ceci doit être blanc ou non blanc. Donc vous avez là le jugement est du côté du principe psychologique et ça découle effectivement. Je répète peut-être que c'est... Si le jugement déclarant que quelque chose est blanc ou est non blanc est vrai, donc de côté logique, ceci doit être blanc ou non blanc. Alors c'est dans le déinterprétationné. Alors le principe logique découle le principe ontologique, excusez-moi, découle du principe logique. Et là, Lukashevitz cite Aristote, il dit la vérité, celui qui croit disjoint ce qui est disjoint et conjoint ce qui est conjoint. C'est métaphysique Theta. Je signale qu'il y a un petit élément pragmatique dans cette citation. On est dans l'affirmation, disons. Bon, alors. Et vous avez également, dans la métaphysique, l'impossibilité logique d'affirmer et de nier en même temps le prédicat du sujet se fonde sur l'impossibilité de la coexistence des contraires. Peut-être encore plus net. Je répète, l'impossibilité logique d'affirmer et de nier en même temps le prédicat du sujet se fonde sur l'impossibilité de la coexistence des contraires. Donc à ce moment-là, effectivement, le principe ontologique découle du principe logique. On vient de voir que le principe logique découle du principe ontologique. Bon, donc il y a une équivalence. Je vous rappelle des définitions avant de continuer d'Aristote, très importantes pour la définition de la vérité. Parce que c'est la définition de la vérité qui fait qu'il établit l'équivalence entre la lecture logique et la lecture. Voilà. Alors je vous donne deux citations. Dire que ce qui est, et que ce qui n'est pas, c'est la vérité. Et ensuite, ça c'est métaphysique gamma d'ailleurs, et métaphysique theta, ce n'est pas parce que nous disons la vérité en appelant blanc ce qu'il est, mais c'est parce que c'est blanc qu'en le disant, nous disons la vérité. Bon, donc nous sommes ici, avec Lukashevitz et le principe de contradiction, d'une part avec une ontologie finalement de l'objet, et c'est les propriétés de l'objet sur lesquelles porterait le principe de contradiction, et qui fait que ça pourrait pas être des propriétés effectivement qui seraient contradictoires, et d'autre part l'équivalence des deux lectures avec la théorie de la vérité. Alors, essayons d'aller un tout petit peu plus loin à propos des objets. Lukashevitz distingue, alors là vraiment de manière très proche de Meinong, les objets incomplets et les objets complets. Les objets incomplets, ça peut être des objets non existants ou des objets abstraits. Et les objets incomplets, évidemment, ça n'obéit pas au principe de bivalence. Et ça va, avoir aussi un comportement différent vis-à-vis de la contradiction. Les objets donc incomplets sont de cette nature, mais en fait, il y a une différence entre lui et Meinong, c'est qu'il distingue la construction et la reconstruction. Les objets complets sont le fruit d'une construction et les objets incomplets d'une reconstruction. Et cette reconstruction peut, dans certains cas, disons, impliquer une contradiction. Ça, c'est assez intéressant. Je passe malheureusement dessus parce que c'est un peu compliqué, mais ça, c'est une chose assez originale. C'est-à-dire que c'est le mécanisme même de la reconstruction de certains objets qui peut amener des contradictions. Alors, l'ontologie donc de Lukasiewicz est meinongienne, et il distingue des objets qu'on pourrait appeler constructionnels et des objets reconstructionnels, c'est-à-dire finalement aussi des objets complets et incomplets. Alors, le principe de contradiction. On vient de voir donc qu'il y a une certaine équivalence qui est établie entre la lecture logique, la lecture ontologique. Alors, il faut peut-être dire un tout petit peu plus sur cette lecture ontologique. Parce que je crois, sur la lecture logique, on pense savoir des choses sur le principe de contradiction. Le principe de non-contradiction concerne, pour Lukasiewicz, l'essence des choses. Et, en fait, le principe de non-contradiction concerne la réalité. Alors, en fait, pour quelle raison ? C'est pas de manière directe en disant effectivement que la réalité est contradictoire ou ce genre de choses. C'est en étudiant de manière assez détaillée la preuve qui pourrait être donnée de l'existence du principe de non-contradiction ou de la contradiction. Alors, disons, presque banale, il reconnaît qu'on ne peut pas démontrer, hein, c'est ce que dit d'ailleurs Aristote, on ne peut pas démontrer le principe, mais on peut le réfuter. Et, en fait, c'est une preuve élinctique, par réfutation, où l'on oblige l'adversaire à admettre des jugements qui conduisent à la conclusion qu'il se refusait à reconnaître. On oblige l'adversaire à quelque chose. Et là, ça devient très intéressant. C'est pas, vous voyez, on dit, on ne peut pas réfuter. Donc, en fait, on ne va pas être du tout dans une réfutation de nature syllogistique. Tout ça. On ne peut pas réfuter. Ça va vouloir dire, en fait, on oblige l'adversaire à dire un mot qui signifie quelque chose. Par exemple, « homme ». Parce que si, en fait, on oblige l'adversaire à dire « homme », à ce moment-là, il tombera sous l'autorité du principe de non-contradiction. Parce que effectivement, l'homme peut être ceci ou il peut être cela, c'est-à-dire cela étant le contraire de ceci. Et on va, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais quand on étudie le principe de non-contradiction, on rencontre, disons, alors comment appeler ça ? L'argument ? Bon, disons argument, hein, pas rapidité, mais c'est un drôle d'argument en tout cas. C'est que effectivement, si vous forcez l'adversaire à utiliser un mot, juste quelque chose qui signifie, comme homme, pas du tout l'homme est blanc ou tout homme est sage, hein, pas du tout un signifiant presque, on pourrait dire, hein, à ce moment-là, disons, vous engagez. Et Aristote dit, il est impossible qu'il soit vrai à la fois qu'une même chose est homme et n'est pas homme, etc. Et il dit aussi, Aristote, à propos de, disons, des choses particulières, j'entends l'expression « désigne quelque chose de particulier » de la manière suivante. Si ceci est un homme, pour autant que quelque chose le soit, alors son humanité sera son essence. C'est-à-dire que là, il y a une lecture un peu différente de ce que c'est qu'homme, puisqu'on fait intervenir, si vous voulez, l'essence hein, de homme. Alors que tout à l'heure, quand il y avait simplement, disons, forcé l'adversaire à utiliser le mot homme, parce que le mot homme tombe sous l'autorité du principe de non-contradiction, on ne fait pas intervenir l'essence de l'homme. Vous voyez la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un usage, je ne sais pas comment l'appeler, qui est purement presque sémantique et direct, où on dit simplement « homme », on aurait pu dire « brouette », on aurait pu dire n'importe quoi, un mot, simplement. Et tous les mots tombent sous l'autorité, à ce moment-là, du principe de non-contradiction, et peuvent vouloir dire une chose et son contraire. Ou alors, vous dites que le homme, ça désigne, puisque c'est un particulier, une essence particulière. Enfin, si c'est un particulier, d'accord. C'est donc... Alors, pour Lukasiewicz, désigner quelque chose de particulier, c'est donc désigner l'essence conceptuelle de l'objet donné. Et l'essence de chaque objet est quelque chose d'unique. Et il va formaliser, à ce moment-là, Aristote, en disant « le mot signifie quelque chose, un objet, on force l'adversaire qui refuse le principe de non-contradiction en l'engageant à citer un mot signifiant. Hein » Ça me semble une chose qui n'est pas forcément beaucoup débattue à propos du principe de non-contradiction et qui me semble importante, parce que ça a à voir avec la réfutation, avec la pétition de principe. Bon. Alors, 10 minutes à peu près, d'accord. Bon, alors je saute un peu... Alors, voyons. Bon, peut-être que je vais sauter quelques pages comme ça. Bon, alors, dans les lectures, disons, contemporaines du principe de non-contradiction, je suis désolé, mais pour essayer d'en faire plus, je saute une transition, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, dans les lectures contemporaines, en particulier, une très bonne lecture qui a été faite dans un article par Gourina, on insiste, disons, sur le principe de non-contradiction ontologique dans sa formulation extrêmement précise. Alors, une remarque que l'on fait, que Gourina fait, qui est très intéressante, c'est que le principe de non-contradiction dans sa formulation ontologique, en fait, je l'ai dit plusieurs fois, hein, je l'ai cité plusieurs fois, je ne vais pas le citer une fois de plus, le principe de non-contradiction dans sa formulation ontologique inclut le temps. Vous vous rappelez, en même temps, une même chose ne peut pas être en même temps. Hein. Ça, l'appartenance, Hyperkein, hein, c'est une chose contradictoire ne peut pas appartenir. Hein. Appartenir si on y a la substance, ou même appartenir à un objet, ou même appartenir à un individu. L'identité, to auto. L'expression sous le même rapport. Kata to auton. L'impossible. Il est impossible que apparaît dans hein, adunaton. Et puis même la temporalité, etc. Donc, le principe de non-contradiction, dans sa formulation ontologique, on pourrait dire, a une formulation extrêmement riche qui implique des éléments qui sont des éléments, disons, modaux, des éléments métaphysiques, même extrêmement riches. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de l'identité, etc. Bon. Et le principe donc de non-contradiction, ce qui est très important, c'est qu'il évite de se référer à des notions purement logiques ou linguistiques. Là, c'est des notions beaucoup plus riches. Alors, il y a un mot sur lequel on peut insister. C'est la lecture de Hyperkein. quelque chose existe pour quelque chose. Je crois que c'est ça la définition peut-être la plus juste, et non pas appartenir. Upparkein, qui est défini d'habitude comme l'appartenance, par exemple l'appartenance de qualité à une substance, je me demande si Upparkein ne pourrait pas être défini comme une dépendance. Parce que à ce moment-là, effectivement, ça voudrait dire que si on a A appartient à B, on pourrait avoir l'équivalent A dépend de B. Un accident appartient à une substance, un accident dépend d'une substance. Et la dépendance, l'avantage, c'est que la dépendance, à propos du principe de non-contradiction, c'est que la dépendance est clairement ontologique. Alors vous avez quelque chose dans Platon qui va dans ce sens. Je cite, « Il est évident que le même, Tauton, ne consentira pas en même temps à produire et à subir les contraires selon le même et relativement au même. » Et là, le terme Upparkein apparaît. Donc, on peut poser l'équivalence des deux lectures, c'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'adéquation entre l'être et le vrai, qui donnait l'équivalence entre le logique et l'ontologique, on peut le mettre aussi en relation avec cette lecture éventuellement de Upparkein comme un terme qui a une signification, disons, ontologique. Et ce serait peut-être pas aussi important que l'adéquation entre l'être et le vrai, mais ça irait peut-être dans le même sens. Et donc, Gourina dit, c'est bien la formulation ontologique qui est première dans l'ordre d'ensemble du livre Gamma. Et il conclut, je ne pourrais que vous le mentionner, parce que c'est, je pense, intéressant. Selon Gourina, c'est la notion de privation, en fait, qui fait passer du principe logique au principe ontologique. Le contraire est privation de l'autre contraire. Donc, en fait, là, on a le concept, effectivement, de contradiction, évidemment, qui est central, mais on a aussi ce concept de privation. Et la privation, en ce qui concerne le principe logique, c'est la privation de l'autre contraire, et la privation, dans l'ordre du principe ontologique, c'est la privation, disons, de l'intermédiaire entre le contraire et le contradictoire. Il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être faites sur la privation et qui ne sont pas toujours développées. Alors, maintenant, il me reste donc à aborder rapidement à 5 minutes. Voilà, ça tombe là, c'est vraiment. Oui, bon alors. Il y a une opposition très forte de la lecture heideggerienne d'Aristote à un certain nombre de choses que je viens de dire. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, en fait, et je cite même Cassin, elle parle du vieux débat où l'on se demande si le principe de contradiction a chez Aristote une signification ontologique ou logique. Et où il est dit dans cette citation, il n'y a pour Aristote ni ontologie ni logique. C'est-à-dire que, en fait, l'ontologie et la logique, si vous connaissez le principe d'ontothéologie, font partie de l'ontothéologie. Ontothéologie. Vous enlevez de la théologie au milieu, parce que là, on ne s'en occupe pas du tout. Qu'est-ce qui reste ? Ontologie, et logique. Ontothéologie. C'est vraiment, si vous voulez, l'hypothèse. Alors, je trouve que c'est un peu absurde, parce que même s'il n'y avait pas d'ontologie, ni de logique chez Aristote, au sens, disons, de l'expression verbale, il n'empêcherait qu'il puisse y avoir conceptuellement quelque chose de cet ordre. Donc je ne vois pas pourquoi le fait de dire finalement il n'y a pas d'ontologie et de logique, mais sans beaucoup de raisonnement, peut empêcher de poser la question. Quand même. Ensuite, quand même, on peut effectivement préférer, c'est ce qu'ils préfèrent, hein, les heideggeriens, parler de science des principes et de dialectique, plutôt que des termes qu'on vient d'utiliser, mais l'affirmation suivant laquelle il n'y a ni ontologie ni logique chez Aristote est exagérée. Pensez aux seconds analytiques, pensez aux livres états de la métaphysique, ça, là ça semble quand même très fortement exagéré. Alors, pour Heidegger, la lecture dont on a parlé de Lukasiewicz, du principe de contradiction, est une lecture qui est une lecture, disons, technicienne, et en fait, qui a comme conséquence que l'homme, je cite, sort de sa propre essence pour passer dans la non-essence et qu'il chute dans la non-essence de soi-même. L'idée est la suivante. C'est que le principe de contradiction concerne la contradiction, qui est quelque chose de très important pour l'essence de l'homme. Et effectivement, si ce principe de contradiction est traité de manière technique, logique, en tout cas c'est vite un logicien, à ce moment-là, l'homme sort de ce qui est son essence et tombe dans le... je ne sais pas comment appeler ça... dans la catastrophe existentielle, en tout cas. Alors, alors maintenant... juste deux minutes. Quelle réelle conclusion en tirer? Comme vous l'avez vu, finalement, j'ai choisi de prendre des étapes. Chez Lukasiewicz, effectivement, le principe ontologique et le principe logique sont finalement sur le même pied. Chez Narcy et Cassin, c'est ni ontologique ni logique. Et chez cet auteur dont j'ai dit quelques mots, hein, Gourina, c'est plutôt que. Hein, la philosophie, c'est plutôt une philosophie première qu'une. C'est plutôt un principe, disons donc à ce moment-là, ontologique qu'un principe logique. Moi, mon point de vue, si il faut choisir entre, mettons, Aubinck, c'est-à-dire qu'il y a un échec de l'ontologie chez Aristote et qu'il reste la dialectique, choisir entre Aubinck et cet aristotélicien qui s'appelle Bertie, qui l'a contredit et qui parle de la valeur de l'ontologie et de la dialectique, je suis évidemment plutôt du côté de Bertie. Donc, effectivement, cette idée que c'est ni ontologique ni logique me pose effectivement un problème. Maintenant, pour moi, est problématique chez Lukasiewicz, c'est son ontologie, disons, meinongienne, pour des raisons que je ne peux pas approfondir ici. Donc, il reste cette lecture qui dit que, effectivement, c'est la philosophie première plus importante. Mais le problème, évidemment, c'est la fonction du principe de non-contradiction sur, disons, la philosophie première d'Aristote. Et ça, là, il y aurait un travail que j'aimerais faire, mais que je n'ai pas fait, dont je signale, disons, l'importance en rejetant plus ou moins les deux autres possibilités. Voilà l'idée. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas utilisées. Donc vous voyez, c'est assez amusant, quoi. Lukasiewicz versus Heidegger. Merci.
Merci beaucoup.